Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Salut, ici Julie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ophélie Damblay, connue sous le nom de Ta Mère Nature et reine de la Green Guérilla. Ophélie a opéré un grand virage professionnel il y a quelques temps et elle est aujourd'hui, en tout cas pour l'une de ses casquettes, agricultrice urbaine en région parisienne. Ensemble, on a parlé de sa pépinière, de son quotidien avec ses bébés plantes, mais aussi de ses autres activités sur les réseaux sociaux ou lors de ses ateliers. Mais Ophélie, c'est aussi celle qui jette des bombes de graines un peu partout dans la ville, qui plante des fleurs et des pommes de terre sans autorisation. Bref, c'est une activiste de la Green Guérilla et elle vous en dit plus dans cet épisode. Bonne écoute à vous! Salut Ophélie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte. Et attention, exercice difficile, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et expliquer ce que tu fais dans la vie aujourd'hui?
Ok, je vais essayer de la faire courte alors, pour pas paumer les auditeurs. Je m'appelle Ophélie Damblay, j'ai 32 ans et je suis à la fois agricultrice, donc j'ai une petite pépinière dans le 93 dans laquelle je produis des plants, mais là aussi où j'accueille du monde en atelier. Et j'ai toute une partie aussi création de contenu où je vais communiquer autour du sujet de la nature en ville via des vidéos, mais aussi de l'écrit, donc des bouquins.
Ok, super. On avait parlé de ton dernier, c'est ton dernier, le manifeste pratique de végétalisation urbaine sur notre compte Instagram d'ailleurs, qu'on a adoré, qu'on vous recommande, mais dont on va reparler évidemment. Donc comme tu le dis, tu as plein d'activités différentes. On va peut-être d'abord s'intéresser à tout ce qui est agriculture urbaine. Et avant que tu nous parles un peu de ton métier et de ton quotidien du coup dans cette pépinière, c'est quoi l'agriculture urbaine pour toi?
Alors l'agriculture urbaine, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est multiforme. On pourrait à la fois parler par exemple des jardins ouvriers ou des jardins partagés qui sont une forme de pratique de l'agriculture à par exemple des formules un peu plus start-up ou grosses entreprises qui vont se lancer dans l'hydroponie et cultiver sur les toits de Paris par exemple. Et donc c'est ça, c'est que finalement il y a plein de techniques qui englobent l'agriculture urbaine. Il y a aussi l'aquaponie, mais tout simplement la culture en bac. La plupart du temps, l'agriculture urbaine c'est quand même très largement hors sol, puisque on a beaucoup de béton. Et puis il y a aussi le problème de la pollution des sols qui rentre en jeu. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est qu'on a à la fois des entreprises, des citoyens, des associations. C'est assez riche.
Ok, mais alors quand toi tu dis aux gens que t'es agricultrice, est-ce qu'ils n'ont pas en tête la nana qui est dans son champ de 3 hectares qui va récolter son maïs? Et pour savoir un peu ton quotidien, c'est complètement différent. Est-ce que tu joues justement sur ce mot à dire que tu es agricultrice vraiment et pas forcément pépiniériste ou autre? Ou est-ce que pour toi, c'est juste un mot comme un autre?
Pour moi, il est important parce que j'ai un peu envie de lui redorer son blason. Moi, je viens de la campagne à l'origine et pour le coup, quand j'étais gamine, j'avais autour de moi pas mal de camarades de classe qui étaient fils et filles de paysans, d'agriculteurs. Et à l'époque, c'était assez péjoratif. Pour le coup, le paysous dans le sud, c'est vraiment le benêt, celui qui n'a pas eu d'éducation. Et donc, c'était un métier qui n'était pas du tout valorisé. Et quand moi, je me suis reconvertie, j'ai pris conscience à quel point ce métier, on lui avait fait du mal. On l'avait usé. Et j'avais un peu envie de lui redorer son blason. Et donc, pour moi, c'est quand on dit je suis paysan, je suis agricultrice, c'est pour le remettre en lumière alors après j'aime bien y accoler le mot urbain pour que tout de suite aussi on se dise ok c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Ouais, notre image, ouais.
Voilà.
Ok, super. Et on va faire rapidement sur ta reconversion, mais c'est quand même intéressant en tout cas parce que je sais que c'est des thématiques qui sont à la mode ou pas à la mode, mais en tout cas où beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que je vais faire dans ma vie et qu'est-ce que je vais faire surtout qui aurait du sens pour moi et qui implique souvent un retour à la terre, alors soit pour une question professionnelle, soit juste pour un lieu de vie. Mais toi, c'est pas du tout là-dedans que tu travaillais il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous faire rapidement ton parcours de reconversion du coup ?
Alors très rapidement, ça va être compliqué, mais je vais faire un effort. je suis passée par plein de métiers différents. Donc moi, j'ai plutôt d'abord été éduquée dans le milieu artistique et j'ai fait des études dans le théâtre et le cinéma. Et j'ai aussi fait beaucoup de musique, donc ça a été un peu ma première école, on va dire. Et puis après, j'ai enchaîné à la fois les jobs alimentaires dans des magasins, dans des bars, des restos, tout en continuant à côté de ça d'avoir des webzines, des groupes de musique. J'étais très impliquée dans la vie culturelle, mais je suis aussi passée par de la pige, de la radio. Et mon dernier job en date, pour le coup, c'était dans une grosse agence de publicité dans laquelle je m'occupais des réseaux sociaux. Je suis rentrée vraiment dans l'antre de la bête et c'était génial d'en comprendre justement les mécanismes, les outils et aujourd'hui je les utilise pour un tout autre discours, mais en tout cas je suis très contente d'être passée par là pour comprendre un peu comment ça fonctionne.
Ok, super, oui, de toute façon c'est toujours utile, hein. Tout ce qui est même communication, tout ça, c'est des choses qui restent même quand on sort du domaine quoi.
Effectivement, et puis je pense qu'on est de plus en plus de néo-paysans, comme on dit, entre guillemets, mais à ne pas complètement rejeter nos métiers d'avant. Et on se retrouve comme ça avec des gens qui ont une double casquette, quoi. J'ai une amie qui est maraîchère aujourd'hui, et l'hiver, elle reprend sa casquette de consulting en marketing. Et ce qui lui permet comme ça de s'assurer des rentrées d'argent. Et je pense qu'il faut faire avec qui on est aussi et savoir voilà, utiliser tous ces outils à bon escient, quoi.
Donc aujourd'hui, tu es quand même principalement, ou en tout cas, tu t'annonces comme agricultrice urbaine. Voilà, en quoi consiste ton métier ? C'est quoi un quotidien chez toi, peut-être par rapport à un quotidien qu'on avait en imaginaire un peu de l'agricultrice ?
Oui, alors c'est vrai que à contrario d'agriculteurs qui vont s'installer en milieu rural, en ville, on est rarement propriétaire de sa terre, et voire jamais, c'est quand même très très rare, et donc on arrive souvent sur des lieux assez temporaires, avec des bails plus ou moins précaires. Et donc moi, dans mon cas, ça fait un an maintenant que j'ai installé une pépinière donc dans un tiers-lieu qui s'appelle la Cité Fertile. Donc je suis accueillie, j'aime bien dire, en résidence. Comme ça fait un peu artistique. mais voilà, en gros, on me laisse un espace à disposition pour pouvoir cultiver. Donc, j'y ai déposé une serre qui est pas très grande, hein, qui fait 22 mètres carrés et dans laquelle je produis des plants. Et ces plants, ensuite, je les vends en direct aux gens qui viennent à la Cité Fertile. Et c'est ça qui est chouette avec ce lieu, c'est que quand je dis tiers-lieu, c'est que c'est un lieu qui englobe plein d'activités différentes. Donc, il y a à la fois toute une programmation culturelle, il y a des associations et des entreprises qui travaillent sur place, il y a un restaurant, des gens qui brassent de la bière, une menuiserie associative. Enfin, voilà, il y a plein de gens et donc de synergies à créer. Et j'ai tout un public qui vient me voir, mais parfois par hasard, quoi. Ils sont venus assister à une conférence et puis finalement, ils se retrouvent à acheter des plants à côté.
Ouais, super. Du coup, ta pépinière, tu es toute l'année et, dedans et tu cultives quoi ? Alors, moi, j'ai vu un petit peu, du coup, parce qu'on le redira et on le mettra en barre d'infos, évidemment, mais tu as une chaîne YouTube où tu fais beaucoup de vlogs et beaucoup de ce qui se passe dans ta pépinière. Donc, j'ai vu un petit peu les fails et les réussites de cette année, mais si tu peux voilà, raconter un peu.
C'est vrai que j'aime bien raconter mes aventures depuis le départ sur cette chaîne qui, pour le coup, voilà, a démarré le premier jour de ma reconversion. Donc, si on est intéressé par mon parcours, on peut vraiment remonter à ma première vidéo de la chaîne et voir justement toute cette évolution. Et donc, dans cette serre, alors, toute l'année, j'y suis, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des temps forts. Et pour le coup, l'hiver, j'y suis beaucoup moins parce que je cultive beaucoup moins. Et à partir de février, là, on redémarre les semis à fond et c'est une période assez intense jusqu'à l'été. Donc en ce moment, là, on est au mois de septembre, et ben là, je suis dans les semis d'automne. Donc j'en ai un petit peu moins qu'au printemps, mais quand même un petit peu. Et mon année, elle est coupée comme ça, en fonction de la météo et du froid et du chaud. Et sinon, c'est rigolo parce que mon quotidien, il est complètement... j'ai à la fois les mains dans la terre et puis derrière l'ordinateur, c'est tous les jours un peu le yo-yo entre les deux. Et c'est ça, moi, qui me stimule à fond. Je pense que si je passais mon temps à semer, je saturerais. Mais pareil, si je passais mon temps à monter des vidéos, ça finit par être compliqué de voir sa tête H24 devant un écran.
Je confirme.
Voilà. Mais en tout cas, c'est chouette parce que je suis dans un lieu où justement, même si je suis toute seule sur mon activité, ta mère nature, c'est vraiment quelque chose que je gère toute seule. Je suis dans un lieu collectif, donc j'ai des interactions avec beaucoup de gens. Et les ateliers aussi me permettent de rencontrer beaucoup de publics et puis des publics très différents, quoi. J'ai autant des scolaires que des associations, des entreprises. Enfin, voilà, c'est très riche.
Ouais, super. Mais on en reparlera après, du coup, de tes ateliers. Ça, c'est chouette aussi. Tu as foiré tes semis de tomates, il paraît.
Eh oui.
Est-ce que c'est douloureux ou est-ce que tu peux en reparler?
Alors, ils ne sont pas seuls, hein. J'ai foiré beaucoup de semis. Mais j'aime bien ça, tu vois, typiquement le partager avec d'autres personnes. Bon, déjà pour dédramatiser le truc, pour montrer aussi que ça fait partie du métier, parce que on en parle, hein, entre pros, de ce qu'on foire, de ce qu'on foire pas. Et ça fait beaucoup de bien, hein, c'est très salvateur de faire ça. Et puis, on comprend aussi quand ça fait un petit temps, maintenant ça va faire 5 ans que je fais ça, qu'en fait, il y a plein de paramètres en compte. Qui ne dépendent pas en fait de ce qu'on a fait. Il y a la météo. Typiquement cette année, ça a été très compliqué pour les tomates parce qu'il y a eu des variations de température qui ont été très fortes. Et donc en fait, c'était très compliqué de démarrer, voilà, de faire prendre les tomates. Et puis même aujourd'hui, c'est compliqué de les faire rougir parce que ça manque de soleil. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi, ben voilà, les maladies, les petits insectes qui viennent nous attaquer alors qu'on n'avait rien demandé. Et ça, pour le coup, ça m'a beaucoup appris le maraîchage avec cette idée du lâcher prise, quoi. De tout faire évidemment pour que ça fonctionne, mais que si ça fonctionne pas, et ben c'est pas grave, quoi. Ça fait partie du jeu aussi un petit peu. Et nous, on est là pour limiter les dégâts, optimiser les chances de réussite. Mais de faire foirer des choses, ça fait vraiment partie du métier, quoi.
Complètement. Mais c'est ce qu'on essaye de dire chez Vert aussi, que même quand on plante 2-3 trucs, c'est normal que des fois tout se passe pas, pas bien, ou que voilà, il y a des, c'est pas grave, faut recommencer, quoi.
Et puis en plus, je me rends compte aussi en m'étant formée, puis en ayant été aussi chez plusieurs paysans, c'est que on n'a pas la science infuse et que on est tous aussi à un moment donné en train d'expérimenter des choses qui sont propres aussi à notre territoire. On est souvent sur des micro-territoires avec leurs spécificités propres, et donc il faut aussi prendre ça en compte et ne pas prendre complètement pour argent comptant ce qu'on peut lire dans les livres ou. Je pense qu'il, enfin, pour le, à chaque fois, je dis que l'agriculture, c'est pas de la pâtisserie, c'est pas une science exacte, quoi. Il y a vraiment ce truc de sensible et d'expérimentation qui est hyper important.
Ouais, non, mais complètement. Mais alors, à qui tu vends? Parce que ce qui est marrant, c'est que t'es agricultrice, mais tu produis pas de l'alimentation, comme on pourrait entendre le sens du métier d'agriculteur. Toi, tu produis des plants que les gens vont acheter. Donc, en fait, tu produis des futurs et futures jardinières, en fait, presque, oui. Dans Paris. Est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude, qui cherchent des plants, qui veulent tester, ou tu discutes un peu avec eux pour savoir, du coup
Ouais, alors c'est très rigolo parce que, pour le coup, c'est pas comme quand on vend du pain ou des couches-culottes. C'est que là, la personne, c'est comme si elle achetait un animal de compagnie. Il y a un truc où c'est très... les gens sont très en demande justement de conseils, sont hyper angoissés à l'idée de la faire crever. Et il y a vraiment ce syndrome du bon élève, surtout bien faire. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges, effectivement, qui sont hyper intéressants. Et comme je suis dans le 93, c'est beaucoup de gens du coin qui viennent me voir et des Parisiens. Et c'est vrai que moi, j'adorais ça aussi. Je me voyais pas spécialement dans le maraîchage. Enfin, j'aime bien cette idée, en tout cas, de la pépinière, que je suis là au premier stade de la plante. Mais que finalement c'est un travail d'équipe et que les gens qui viennent me les acheter prennent le relais ensuite, quoi. Et j'aime bien l'idée que cette plante que j'ai cultivée, elle ait une autre vie. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que de temps en temps sur Instagram, j'ai des gens qui m'envoient des photos en me disant regarde ce qu'elle est devenue, c'est trop bien. j'ai des nouvelles de mes enfants, quoi.
Ouais, voilà, mais c'est bien, c'est super. Alors, on va aborder un autre sujet qui est la Green Guérilla. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est, même si on en a aussi un peu parlé autour de ton livre. Et si on te suit sur les réseaux, on doit savoir ce que c'est. Mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est la Green Guérilla, si tu dois l'expliquer simplement?
La Green Guérilla, en quelques mots, c'est un mouvement citoyen qui est né dans les années 70 et qui vise à se réapproprier l'espace urbain en le végétalisant. Donc, c'est vraiment sortir dans sa rue et faire pousser des trucs. Après, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il y a cette notion de désobéissance civile, puisqu'on ne va pas forcément demander l'autorisation, on ne va pas remplir de permis de végétaliser, on va juste se mettre à végétaliser. Et c'est ce qui nous met dans une forme de dynamique hyper naïve, hyper joyeuse, où on se fout un peu finalement du résultat. Enfin, tant mieux, enfin, ce n'est qu'un bonus en fait, si on arrive à faire perdurer le truc, mais c'est avant tout la mise en action. Et cette réappropriation de cet espace qu'on a tendance un peu à fuir Alors encore plus quand on est une nana. Donc moi j'y vois aussi une dimension un peu féministe de réancrage dans cet espace dans lequel on a tendance à juste passer. Là il y a vraiment cette idée de réenracinement que je trouve hyper intéressante. Et aussi ce mouvement un peu anonyme, parce que finalement il y a peu de figures de proue dans ce mouvement. Il y a évidemment quelques personnes qui ont communiqué dessus, mais c'est très très anonyme. C'est vraiment un citoyen qui se met à claque poser un bac au pied de son immeuble et voilà. Donc moi je me suis beaucoup intéressée à ce mouvement en allant justement à la rencontre de citoyens, et on en a fait une bande dessinée et toute une série de vidéos sur le sujet avec un ami qui s'appelle Cookie Calcaire et qui fait de la BD reportage. Donc c'était une super aventure, et puis moi ça m'a vraiment aussi donné cette envie quoi de m'y mettre aussi. J'aime bien faire ça avec des amis quoi. Il y a un côté hyper pirate, enfin on a l'impression de faire une bêtise, il y a un côté un peu aventure, alors qu'en réalité on est dans la même rue que d'habitude, mais c'est juste qu'on la voit plus du tout avec le même regard quoi. On change complètement de regard et on se dit « Ah putain, qu'est-ce qui pourrait être cool comme spot ? Ah, on pourrait planter des graines dans ce petit interstice. » Et c'est hyper joyeux en fait. On sort aussi de l'injonction à sauver le monde. Là, il y a un côté beaucoup plus enfantin et en même temps avec un langage guerrier que moi j'aime bien. Il y a un côté un peu rebelle aussi et plus en lien aussi avec la street culture quoi. Moi, je le mets en lien avec le graffiti, avec le skate. C'est ça, c'est se réemparer de l'espace public quoi.
Ouais, complètement. Mais c'est hyper intéressant en fait comme moyen de communication, parce que c'est très activiste, comme tu dis, c'est de la désobéissance civile. Pour rappel, c'est interdit de planter sauvagement dans l'espace public, sur le domaine public. Il faut un permis de jardinier, comme ils appellent ça.
Sinon, c'est considéré comme de la dégradation de l'espace public.
Je pense que tu ne dois pas risquer grand-chose à installer des plantes, ou à jeter des bombes de graines, etc. Mais ça reste quand même quelque chose d'interdit. Donc, effectivement, il y a un côté un peu activiste. Et il y a un côté, évidemment, comme tu dis, de végétaliser un espace qui est beaucoup trop bétonné. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces vidéos sur YouTube. On te voit mettre des graines dans des petites failles du mur, planter un tournesol par-ci par-là. Enfin voilà, dans des espaces très très urbains du coup. Donc est-ce que c'est pour toi c'est un moyen d'être activiste ? Tu l'as déjà dit un peu, mais pas que je veux revégétaliser. C'est aussi un mouvement qui peut être un peu féministe, un peu aussi sur tout ce qui touche aux quartiers défavorisés qui sont souvent bien plus abandonnés. Sur le côté végétalisation des espaces publics, il y a plein de côtés activistes en fait derrière la Green Guerilla. Il n'y a pas juste j'aime la nature et je voudrais voir des pissenlits plus jolis quoi, enfin plus souvent quoi.
Ah ben clairement, on sort complètement de ce cliché du bobo qui veut manger ses tomates, qui cultive sur son balcon. Là, on sort dans la rue et il y a clairement une dimension sociale. Pour moi, c'est un outil, c'est un vecteur de lien social, et je le vois clairement quand je jardine dans la rue, il y a des échanges que j'aurais jamais eu autrement, et parce que la rue elle est à tout le monde quoi, elle est autant au SDF que au mec qui vend des clopes à la sauvette, que la petite mamie du coin qui fait ses courses. Et en fait, avec ces trois entités, j'ai des conversations improbables, et ça c'est très puissant. Et effectivement, la Green Guerilla, c'est avant tout un mouvement très populaire. Et à titre d'exemple, une des grandes figures de proue aux États-Unis s'appelle Ron Finley. Et lui, il a réussi à faire changer les lois à Los Angeles, puisqu'il habitait un quartier assez défavorisé. Et lui, il parle de désert alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut faire des kilomètres et des kilomètres en voiture pour pouvoir avoir accès à des fruits et légumes frais. Sinon, c'est que des stations d'essence où on mange les chips et les cacahuètes. Et donc lui a commencé à cultiver devant les terre-pleins de chez lui, parce qu'il n'avait pas de jardin, et évidemment c'était interdit. Ça a fait grand bruit, les médias se sont emparés de l'histoire, et la loi a fini par changer à Los Angeles. Et donc aujourd'hui on a le droit de cultiver, faire des potagers sur des bouts de terrain qui appartiennent à la ville. Et c'est en ça où je trouve que la désobéissance civile est hyper importante en fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le temps de demander l'autorisation, et même en fait il y a une forme de lutte hein. Là en ce moment on pourrait prendre pour exemple ce qui se passe avec les Jeux Olympiques pour 2024, il y a des jardins ouvriers juste à côté de la cité fertile qui sont en train d'être détruits pour qu'on y construise une piscine pour les JO, et ça pose beaucoup de questions quand on voit à côté de ça les problèmes d'inondation auxquels on est en train de faire face de plus en plus, se dire ok, en fait on enlève de la terre, on enlève des arbres pour mettre du béton encore et encore et encore, Et donc voilà, la désobéissance civile, en fait, on va être obligé à un moment donné aussi de tout s'y mettre quelque part. Et ça peut se faire de manière assez joyeuse. Hein. La lutte en elle-même, on peut la trouver aussi à travers des actions très joyeuses.
Dans ton livre, d'ailleurs, le Manifeste pratique, tu donnes pas mal d'idées quand même pour végétaliser. Alors, ça peut être vraiment de la green guérilla dans le sens, on en reparlera, mais donc les bombes de graines, voilà, aller planter, jeter des graines par-ci par-là, aller planter des plants qui nous restent, des choses comme ça. Mais après, plein d'autres astuces pour végétaliser son quotidien, en fait, quand on habite en ville, qu'on n'a peut-être pas trop accès, ou en tout cas, qu'on ne sait peut-être pas du tout jardiner. C'est quoi ton astuce préférée dans ton livre ? Est-ce que tu en as une ?
Bah écoute, c'est vrai qu'avant de se lancer dans la lutte dans une ZAD, en général, on démarre de chez soi. Et moi, ce que je trouve qui est quand même très facile et très rigolo à faire et très satisfaisant parce que ça pousse très vite, c'est les graines germées. C'est un truc qu'on peut faire avec ses enfants. On n'a même pas besoin de terre. On a juste besoin de graines à germer et d'un bocal pour se lancer. Et en fait, ce qui est très plaisant quand on n'a jamais fait pousser quelque chose, c'est que là, on voit la graine germer au bout de 3 jours. Et c'est quelque chose qu'on peut consommer, qui est hyper intéressant nutritivement parlant. Et moi, c'est toujours l'exemple que je sors justement quand vraiment la personne n'a jamais fait ça de sa vie. Là, il y a un côté, c'est à portée de main, c'est très rapide et très pas cher, quoi. Enfin, il y a ce truc aussi où aujourd'hui, on est beaucoup dans le gadget, même dans l'écologie. Hein, on nous vend des paillettes en bambou alors qu'on n'en a pas besoin. Bon, ben là, voilà, de dire en fait, le jardinage en soi. Enfin, moi, si quelqu'un vient me voir à la pépinière, il verra que j'ai très peu d'outils, quoi. À part la terre et les graines, j'ai pas grand-chose.
Hein. Oui, non, ça, tu le montres en vidéo d'ailleurs. C'est incroyable, parce que tu fais pousser quand même pas mal de choses. Et les bombes de graines, alors, parce que t'es quand même connue pour tes bombes de graines. D'ailleurs, il y a une de tes photos Instagram, c'était une des questions aussi que j'avais pour toi, où tu as, alors je sais plus, je crois que c'était avec Merci Raymond que tu avais fait une collaboration, que tu avais fait un distributeur de bombes de graines. Voilà, je trouve que c'est un côté aussi très artistique, la green guérilla, enfin, très, comme tu dis, un peu street art, c'est assez cool. Nous, on en parle dans notre numéro 7, tu vois, des bombes de graines, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est, en fait ? Comme ça fait peur, mais...
Ouais, alors ça ne va pas vous exploser au visage, tout va bien. Et c'est quelque chose qui existe depuis vraiment très longtemps. C'est vrai que c'est l'emblème un petit peu de la green guérilla parce qu'il y a le côté bombe, on va la balancer, c'est très rigolo. Et c'est vrai qu'en plus, moi, ça plaît autant en atelier pour adultes que pour enfants. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Donc déjà il y a ce côté très ludique, voilà, quand on ne sait pas trop jardiner, il y a un côté un peu pâte à modeler. Et donc le principe c'est que c'est juste une petite boule de terre, d'argile et de graines. Et le pouvoir de l'argile, c'est de pouvoir maintenir, garder l'humidité, parce que ça gonfle avec l'eau. Et nous ce qu'on veut pour que la graine germe, c'est de l'eau, c'est de l'humidité. Et c'est vrai que quand on se met à semer comme ça à la volée dans l'espace public, à moins qu'on soit sûr qu'il pleuve dans les 5 prochains jours, en fait, le principe de la bombe de graines, c'est vraiment d'augmenter les chances que notre graine germe et pousse. D'autant qu'en ville, on se fait quand même beaucoup harceler par les pigeons et les pigeons rongeurs.
C'est ce que j'allais te dire, pas que la pluie est le problème. Ouais.
C'est ça, et c'est du vécu. Hein. Vraiment, je me suis amusée à semer des choses à la volée. On tourne le dos 2 secondes et là il y a 15 pigeons qui débarquent et c'est fini, quoi. Alors on pourrait dire qu'on est de la biodiversité, mais bon,
c'est que du pigeon.
Voilà, donc c'est vrai que la bombe de graines c'est une activité qui est très sympa à faire et où il y a vraiment cet intérêt pédagogique, mais je sais aussi que un des permaculteurs japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka en parle aussi dans son livre La révolution d'un seul brin de paille. Et c'est une technique qu'il a utilisée pour réactiver en fait ces parcelles, quoi, les rendre beaucoup plus fertiles. Donc c'est une technique qui est très intéressante dans les zones difficiles. Et la bombe de graines, on l'utilise aussi pour reforester aujourd'hui. J'ai vu des vidéos où c'est des embarcadères, on dit ça comme ça, des avions qui font des gros lâchers de bombes de graines dans lesquelles sont contenues des graines d'arbres.
Ok. Et qu'est-ce qu'on met du coup comme graines si on veut lancer des bombes de graines avec un petit espoir que ça pousse quand même ?
Ouais, alors moi ce que je conseille c'est souvent d'utiliser des mélanges de graines mellifères, donc des choses qui vont produire pas mal de fleurs avec du nectar et donc attirer les pollinisateurs. Parce que c'est vrai qu'ils sont toujours en manque de nourriture, nos pauvres amis les pollinisateurs. Et puis en plus de ça, on prend pas trop de risques sur les espèces invasives. puisque c'est toujours l'idée de faire attention quand même à ne pas mettre n'importe quel végétal dans un milieu. Il faut plutôt faire avec des espèces locales. Et donc, avec les mélanges de graines mellifères, on ne prend pas trop de risques. Hein, c'est souvent des graines de fleurs des champs. Au plus simple, après, on pourrait tout simplement, en ce moment-là, on est à la fin de l'été, c'est le bon moment d'aller récolter des graines au bord des bas-côtés, des bords de route, par exemple. Tous les coquelicots, il y a plein de fleurs des champs, là, en ce moment, qui sont en train de produire leurs graines. On pourrait aller en récolter quelques-unes. On sait en plus que ce sera des plantes qui vont très vite, très facilement, en fait, s'implanter. Elles ont poussé là d'elles-mêmes. Donc, on sait que ça va être facile, quoi, pour elles de pousser.
Ouais, super. Est-ce que tu vas voir des fois ce que tu plantes, si ça a poussé? Est-ce que tu as eu des bonnes surprises des fois?
Ouais, il m'arrive de temps en temps de... Alors, j'ai lâché quelques bombes de graines dans la cité fertile, donc j'ai pu aller voir effectivement que ça avait poussé. Après, je vois aussi que quand je laisse des petits pots sur des poteaux, bah voilà, 2 heures après, ils sont encore là, et puis 3 heures après, c'est parti. Après, je suis pas, enfin, je suis plutôt dans le délire Amélie Poulain, quoi. C'est-à-dire, je mets des petites surprises comme ça dans la rue, mais je suis pas trop dans la construction sur le long terme. J'ai cette conscience un petit peu que c'est mouvant et que du coup, faut l'accepter. Et si je voulais que les choses soient pérennes, j'irais m'investir dans un jardin partagé ou, enfin, bon, de toute façon, c'est déjà ce que je fais à la cité fertile, mais. Là, je suis plus dans l'idée de faire des petits cadeaux, de planter des petites graines. Et effectivement, tu disais, la dimension artistique, pour moi, elle est assez importante. Et je vais de plus en plus vers ça, vers des idées d'installation qui juste changent un petit peu le regard qu'ont les gens sur la rue. Mais sans ce souci d'absolument récolter la tomate issue du pied de tomate que j'aurais posé dans la rue, quoi.
Est-ce que c'est des thématiques? Alors du coup, on n'a pas trop parlé de tes ateliers, mais tu organises des ateliers. Et si je ne dis pas de bêtises, on a organisé pas mal là, cet été à la Cité Fertile, je pense, dans ta pépinière.
Ouais.
C'est des ateliers où ils font quoi? Alors les bombes de graines, tu leur fais faire d'autres choses, des petites plantations?
Oui, j'essaye. Alors j'essaye de m'adapter à la saison. Cet été, c'est vrai que c'était chouette parce que j'ai pu organiser pas mal d'ateliers gratuits dans le cadre du Bel Été Solidaire organisé par la Seine-Saint-Denis. Et donc, j'ai fait beaucoup d'initiations, donc à la fois de l'initiation à la végétalisation urbaine, hein, donc donner plein de conseils pour optimiser ses chances de réussite, justement, en zone vraiment urbaine. Après, j'ai fait un petit focus sur le potager sur un balcon, si on veut se lancer dans autre chose que du basilic et de la tomate cerise. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pousser et aussi s'adapter, parce que je sais que beaucoup de gens des balcons mal exposés, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut faire pousser à l'ombre, etc. Et tout un volet sur la reproduction des plantes, la multiplication. Donc, les boutures, les semis, c'est quoi la différence, etc. Et là, là, on arrive à l'automne. Donc, je pense que je vais faire des choses un petit peu plus sur les plantes médicinales, des petites initiations à tendance herboriste. J'ai aussi fait un atelier sur l'impression végétale.
Ah oui, j'ai vu.
Ça, c'était assez rigolo d'aller à la fois dans une exploration des plantes qui ont poussé spontanément dans la cité fertile et faire bien la différence entre celles qui poussent toutes seules et non ou non. Et puis ensuite, aller les imprimer sur du tissu. Pareil, hein, je n'invente rien. C'est une technique ancestrale qui s'appelle le tatakizome et qui est très sympa à faire. Et avec peu de matériel, on peut s'amuser.
Ok, bah super. Je vais te demander, est-ce que tu avais un petit conseil à quelqu'un qui voudrait devenir activiste de la Green Guérilla? Qu'est-ce qu'il pourrait faire au quotidien, lui? Alors, évidemment, quelqu'un d'urbain plutôt, mais peut-être même pas que.
Alors, quand on est activiste, on a vraiment envie de bien faire et on est en général assez exaspéré de ce qui peut se passer. Et ça peut être très anxiogène aussi. Hein, donc, il faut à la fois se nourrir de cette colère pour se mettre dans l'action, mais aussi se lâcher la grappe sur l'absolue réussite et se dire, en fait, bon, je vais essayer de trouver du plaisir dans ma lutte. Et c'est là où, moi, typiquement, je sais que ma lutte, elle est dans la communication, transmettre, faire des ateliers avec des publics les plus différents possibles aussi, Ça, pour moi, c'est une forme d'activisme. Par contre, tu vois, j'évite d'aller en manif parce que j'ai très peur des violences policières et je sais que je réagirais très très mal en face de ça. Et j'essaie de me préserver, tu vois. Donc il y a ce côté aussi, être assez lucide sur ce qu'on est capable de maintenir en plus, parce que c'est un peu de l'endurance le militantisme. Et donc faire attention à voilà ce qui va pas trop nous brûler tout de suite. Et c'est aussi s'entourer de gens pareil qui nous élèvent vers ça, quoi, qui sont aussi assez impliqués. Faut pas hésiter à aller faire moi je trouve que c'est compliqué de démarrer tout seul l'activisme, donc c'est toujours bien d'aller frapper à la porte d'associations qui sont déjà voilà, et puis de toujours faire le lien entre enfin pour moi l'écologie elle est forcément sociale. S'il n'y a pas un lien avec les autres luttes comme le racisme, le féminisme et même l'antispécisme, pour moi, ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc, il faut aussi le corréler. Et pour moi, faire de l'écologie, c'est aussi, pourquoi pas, aller apporter des repas aux migrants. En fait, il y a tellement d'associations aujourd'hui.
Oui, il y a beaucoup d'actions.
Mais il faut le faire toujours avec cette idée de ne pas trop se tramer les ailes tout de suite et faire avec ce qu'on est capable de faire. Donc, si notre passion, c'est de faire des gâteaux, eh ben, on peut faire des gâteaux et aller les offrir aux migrants, par exemple.
Mais tout à fait, c'est une très bonne idée. J'avais une question type qu'on pose assez souvent, c'est-à-dire ça donne quoi une journée avec toi ? Mais j'ai l'impression que toi, il faut te demander ce que ça donne une semaine peut-être avec toi plutôt.
Ouais. Ben c'est effectivement un gros bordel. mes journées sont ponctuées de pas mal de séances d'arrosage et de vérification que mes plantes vont bien. À côté de ça, ben, je réponds pas mal à des mails. J'ai toujours des organisations, d'événements à gérer, des formations aussi. J'accueille beaucoup de public, donc c'est des préparations d'ateliers et de la coordination aussi hein, pour gérer tous ces contacts. Et puis après, il y a tout le volet création de contenu. Donc c'est vrai que je suis toujours en train de chercher des idées sympas ou même des projets que j'aimerais mettre en lumière sur les réseaux sociaux. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais la création de contenu, c'est très chronophage. Hein. Le montage, par exemple, c'est une galère sans nom. Alors moi, j'adore, hein, mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Une vidéo de 30 secondes sur Instagram, un réel, ça peut prendre une demi-journée de travail sans problème.
Complètement.
Et donc voilà, c'est ça un peu mes semaines. Après, je te dis, je travaille beaucoup aussi avec les saisons. Donc, au printemps, je vais vraiment beaucoup donner de mon temps à la production de plants. Là, en ce moment, typiquement, à l'orée de l'automne, ça commence vraiment à se calmer. Et cet hiver, je serai clairement plus derrière mon ordi à préparer l'année suivante, du coup, à faire mes commandes de graines, de matériel. Donc, c'est aussi comme ça. Et je m'adapte à la météo.
Oui.
J'ai pas besoin de venir arroser s'il pleut.
C'est parfait, c'est top. Je renvoie encore une fois, hein, je pense que c'est une de tes dernières vidéos sur ta serre. S'il y en a qui se demandent comment, tu montres comment elle est faite, comment elle peut s'ouvrir, récolter de l'eau, etc. Voilà, si vous avez des questions techniques, il y a pas mal de réponses, ouais. Je pense, dans cette vidéo-là. Ouais.
Et même sur mon parcours, hein, je suis assez transparente sur combien je gagne.
Tout à fait.
Qui j'aime pas, non, je rigole.
Où est-ce qu'on peut te trouver du coup si on a envie de t'acheter des plants ou de faire un de tes ateliers ou de discuter avec toi parce qu'on a envie de devenir Green Guerilla?
Alors on peut effectivement venir me voir à la Cité Fertile. Après c'est toujours mieux de m'envoyer un petit mot parce que je suis pas forcément présente tout le temps, mais généralement le samedi après-midi c'est un moment où j'organise des ventes en direct et des ateliers. Alors ça dépend le moment de l'année, mais voilà, c'est quand même souvent ça. Et puis on peut me retrouver aussi pas mal, beaucoup même sur les réseaux sociaux et notamment Instagram et YouTube, là où je suis le plus active. Voilà.
Ouais, super, on mettra de toute façon tous les liens en dessous. Est-ce que tu as des petits projets à venir ou est-ce que tu penses déjà à la saison prochaine dans la pépinière ou d'autres projets que tu aimerais faire ?
Écoute, ouais, j'ai des super projets sur le feu. Je suis en train de mettre un partenariat en place avec une association qui s'appelle Être, qui fait de la réinsertion entre guillemets de jeunes adultes en décrochage scolaire. Donc voilà, on est en train de mettre en place un cycle de formation ensemble. Je suis aussi en train d'organiser un marché de Noël comme chaque année qui va se passer à la recyclerie. Et c'est un moment où justement je fais venir plein de producteurs et d'artisans du coin, donc majoritairement vraiment d'Île-de-France. Et c'est un moment qui est hyper convivial parce qu'on organise aussi beaucoup d'ateliers. Je vais essayer de mettre en place aussi des projections de documentaires sur le monde agricole. Et c'est un moment aussi vraiment d'échange. C'est des moments très, très joyeux. Et en début d'année prochaine, normalement, je pourrais dire qu'on sort une petite fiction pour enfants avec une amie illustratrice qui sera pareil sur le sujet de la végétalisation urbaine. Mais là, cette fois-ci, on est parti sur l'invention d'une histoire, d'une aventure. Et je suis très contente, là, pour le coup, d'imaginer quelque chose pour les gamins.
Ouais, beau projet. Ben, on vous en reparlera, du coup, en temps et en heure. Nos dernières petites questions habituelles. Est-ce que tu as une recommandation de livre, de document, de documentaire, de tout ce que tu veux, évidemment, qui touche à la végétalisation, à ce que tu fais au quotidien?
Alors, un livre que je recommande très souvent, c'est Sauvage de ma rue, qui est un bouquin de reconnaissance des végétaux, particulièrement en milieu urbain, donc tout ce qui pousse spontanément en ville et dont on ne fait pas, et auquel on ne prête pas assez attention. Donc ça c'est très chouette, Sauvage de ma rue. C'est aussi une application, donc on peut participer à la reconnaissance des végétaux. Donc c'est vraiment une science participative, comme on dit. Et dans le même esprit, il y a Tela Botanica qui est en train d'ouvrir un MOOC sur les herbes folles. Et il y aura tout un focus justement sur les herbes folles de la ville. Et donc j'ai très hâte de le démarrer. C'est des MOOC. Tela Botanica, c'est vraiment super. Ils ont tout un cycle là de formation gratuite en plus, simple pour la plupart. Donc c'est très accessible. C'est vraiment super.
Ouais, on vous les recommande aussi. Et il y a encore temps, je pense, de s'inscrire aux herbes folles. On a vu passer l'info là il y a pas longtemps. Et est-ce que tu as un conseil pour voir la vie en vert? Même si je pense que tu vois déjà beaucoup la vie en vert maintenant.
Eh ben écoute, je pense que c'est de mettre des paillettes biodégradables sur la figure. On le dit pas assez, mais pour moi, le sens de la fête et de la célébration et de vraiment savoir faire la fête, moi, j'y vois un côté très militant aujourd'hui, en fait.
Tu as une boule à facettes dans ta serre, pour ceux qui ne te connaissent pas.
Tout à fait. Je pense sincèrement que mes plantes sont plus heureuses avec cette boule à facettes dans la serre. Et donc, moi, j'adore. En plus, j'adore... les drag queens, j'adore cet univers, le transformisme. Et donc, sans déconner, je pense vraiment que pour avoir vu un paquet de saisons de RuPaul, Drag Race, je pense sincèrement que ce genre de milieux sont finalement très politiques. Enfin, de savoir être fier et de savoir faire la fête et de célébrer les couleurs et les paillettes, ben c'est très politique et en même temps très contagieux. Et c'est ça aussi qui fait se mettre dans l'action, quoi. Je pense que c'est pas la peur et s'accabler de tous les maux du monde qui fait nous sortir du lit, quoi. Alors que les paillettes, oui.
Les paillettes, oui. Ah, les paillettes.
Mais biodégradables, attention.
Tout à fait, bien sûr, il en existe plein. Pareil, on vous remettra des liens si vous voulez dans la barre d'infos. Bon, mais c'était super, merci beaucoup. On te souhaite plein de jolies choses, du coup, pour les mois à venir. Et on espère pouvoir, du coup, nous, venir te voir un jour à la Cité Fertile et voir la Cité Fertile. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chouette aussi d'y passer.
Oui, venez me voir. On y boit des bonnes bières brassées sur place.
Parfait, c'est bon, on est convaincus. À bientôt, Ophélie.
Merci, salut.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Alors, vous avez envie de jeter des bombes de graines partout en ville? C'est parti, on vous fait un petit topo. Les bombes de graines sont très simples à réaliser avec un mélange d'argile à trouver dans les magasins de loisirs créatifs par exemple et de terreau. Il vous suffit de mélanger 2/3 de terreau avec 1/3 d'argile, vous malaxez bien comme de la pâte à modeler et vous formez votre boule. Insérez ensuite quelques graines, pas trop, une ou deux pour les grosses graines, jusqu'à 3 ou 4 pour les petites. Vous pressez bien, et voilà, vous avez vos munitions. Pour les graines, Ophélie conseille de privilégier les mélanges de fleurs mellifères, histoire de nourrir nos amis pollinisateurs. En automne, on vous conseille aussi d'utiliser des graines d'engrais verts, comme la moutarde ou la phacélie, ou bien des graines de fleurs annuelles, comme les coquelicots, les bleuets ou les soucis. N'hésitez pas à les ramasser directement sur le bord des chemins et des routes, les graines seront d'autant plus acclimatées à leur environnement. Et après, jetez vos bombes là où vous le souhaitez. Attention, pas n'importe où non plus. Évidemment, pas dans des espaces privés, ni dans des espaces protégés. Privilégiez les lieux abandonnés, le pied des arbres en ville ou le bord des trottoirs. Bref, là où vous aimeriez voir de jolies fleurs. N'oubliez pas que vous pouvez aussi trouver le tuto des bombes de graines dans notre numéro 7 de cet automne. Vous voulez vous investir un peu plus dans la végétalisation de votre ville? Participez à un jardin partagé par exemple, renseignez-vous auprès de votre commune. partez à la recherche des plantes sauvages pour le programme Sauvage de ma rue, ou encore faites du troc de plantes entre voisins. Enfin, et surtout, prenez l'habitude de regarder les plantes qui poussent toutes seules dans votre ville, sur le bord des trottoirs ou dans les interstices des murs. Vous verrez qu'il y a de nombreux lieux surprenants qui accueillent les végétaux. Allez-y, on vous laisse, on a plein de bombes de graines à faire. La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !